Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur opost.fr.
Amis des crèves du mois d'avril, des grosses crèves. Amis du café, amis d'Opost, opostien, amis de la justice. Notre invité est chez lui. Et donc, nous allons pouvoir, je pense, l'interviewer dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Notre invité, c'est Jean-Louis Chalancet. Il a repris le dossier Abdallah en 2013 et ne l'a plus lâché. Jean-Louis Chalancet, avocat au barreau de Paris depuis 1980, est l'homme qui a obtenu ce que 12 années de procédure n'avaient pas réussi à produire. La libération de Georges Ibrahim Abdallah après 41 ans de détention. Alors que je crois qu'il y a un raid, c'est ça, d'host politique. Bonjour. Ah oui, le Covid peut-être. Oh bon sang, t'as peut-être raison, dis donc, host. Bonjour à toi, merci pour ton raid, merci infiniment. Eh bien, je le prends comme un double soutien de ta part. Merci. Ou alors, c'est toi qui es dedans. En tout cas, moi, bref. Revenons à beaucoup plus grave. Abdallah, Georges Ibrahim Abdallah. Il a donc été libéré en 2025. Peut-être que vous en souvenez. Mais figurez-vous que, alors que sort demain le film documentaire de Pierre Karl consacré à la longue détention de Georges Ibrahim Abdallah et du rôle des services secrets, des Américains, des médias. Alors que le film sort demain, le 8 avril, c'est un film au poste, je vous le conseille ardemment. Eh bien, figurez-vous que le 1er avril, il y a quelques jours, mauvais poisson, la Cour de cassation a annulé la libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, jugeant que la procédure était irrégulière, une décision qui reste théorique, puisque Georges Ibrahim Abdallah est désormais au Liban. Alors justement, on va voir comment ça se passe pour lui, vu les bombardements israéliens au Liban. L'homme de robe, donc Jean-Louis Chalancet, est convoqué au poste la veille donc de la sortie du film de l'affaire Abdallah de Pierre Karl. Alors, je vois que Monsieur Chalancet a tourné sa caméra. Alors là, bonjour maître, attention maître. Est-ce que vous m'entendez maître? Alors, vous m'entendez, mais moi je vous entends pas, je crois. Allez-y. Ah si, ça devrait aller. Allô, allô. Oui. Bonjour maître.
Oui, bonjour.
Quel bonheur de vous voir, j'allais dire en chair et en os. Ça fait tellement d'années que je vous vois de temps en temps dans les actualités télévisées à essayer de ferrailler avec la justice et vous voici au poste. Comment allez-vous?
Bah, très bien, merci. Mais dites-moi, posez-moi les questions sur la libération de Georges et sur d'autres d'ailleurs, puisque comme vous le savez, j'ai défendu beaucoup de militants condamnés également à perpétuité qui ont tous été libérés dans le passé.
Et oui, vous n'êtes pas mauvais comme avocat, hein, on peut le dire.
Bon.
C'est pas à vous de le dire, maître, mais voilà. Alors, l'idée, je ne sais pas si vous m'avez entendu présenter l'émission, l'idée c'est de revenir sur, évidemment, la libération, puis la décision de la Cour de cassation le 1er avril. Et aussi, évidemment, on va mettre quelques petits extraits du film de Pierre Karl, dans lequel vous tenez votre rôle. On vous voit souvent ferrailler. Et donc, l'idée, voilà, c'est de parler de ce film qui sort demain. La première chose, c'est d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de... alors, vous l'appelez Georges, est-ce qu'on doit l'appeler Georges Ibrahim? Est-ce qu'on doit l'appeler Georges Ibrahim Abdallah? Comment on doit l'appeler?
Le plus court, c'est Georges Abdallah.
Ouais. D'accord, ok. Comment va-t-il? Est-ce que vous avez des nouvelles?
Oui, j'ai des nouvelles il y a quelques jours. Il va bien, enfin, aussi bien qu'on puisse aller dans un pays en guerre où il est évidemment une cible pour les Israéliens.
Absolument. Alors,
il ne se cache pas, il a encore fait une déclaration publique dans une manifestation il y a 4 ou 5 jours à Beyrouth.
Très bien. Je vais vous faire parler juste une petite seconde de la décision de la Cour de cassation. C'est technique, mais j'ai l'impression que ça en dit long sur l'acharnement judiciaire. Donc, en gros, il est libéré en 2025, finalement, après, je crois, 41 années de détention, c'est ça?
Presque 40 ans et 10 mois.
40 ans et 10 mois, faisant de lui le plus vieux prisonnier politique, d'Europe.
Oui, d'Europe, puisque les seules peines plus longues pour des militants politiques, c'est aux États-Unis. Même en Israël, le plus vieux prisonnier palestinien avait fait 39 ans de prison.
Très bien. Il est libéré. Il est libéré, plus exactement, il est expulsé, hein, c'est-à-dire que la condition...
Il n'est pas expulsé, juridiquement il n'est pas expulsé. Toute la difficulté est là, il quitte volontairement le territoire français, accompagné de 3 policiers.
Volontairement accompagné de 3 policiers, expliquez-moi. C'est-à-dire c'était les policiers qui voulaient partir en goguette.
Oui, c'est ça, si vous voulez. Mais oui, ça c'était les policiers, si vous voulez, c'est pour, disent-ils, assurer sa protection dans l'avion libanais. Enfin, c'est n'importe quoi, mais voilà.
Bon, très bien. Et alors, la Cour de cassation a dit que sa libération, puisque c'était une libération conditionnelle, avait été accordée, n'était pas bonne et qu'en fait, il n'aurait pas dû être libéré et expulsé de France.
Je vous explique. C'est un peu compliqué, mais en un mot, il y a un texte, une loi Dati, une vieille loi Dati, qui dit que pour les condamnés à perpétuité, pour être bénéficier de la libération conditionnelle, ils doivent faire une période d'un an en semi-liberté ou en bracelet électronique, sauf s'ils ont une obligation de quitter le territoire français. Georges Abdallah est le seul militant, enfin prisonnier condamné pour terrorisme, entre guillemets, qui n'a pas bénéficié d'une interdiction du territoire, puisque c'est un vieux texte pour lequel il a été condamné. Il n'y a plus aucun prisonnier condamné pour les mêmes faits qui n'a pas une interdiction du territoire français. Mmh. Donc, ils prennent ces arguties pour refuser sa libération en disant qu'il n'a pas fait un an de semi-liberté ou de bracelet électronique en France. Ce que, d'une part, il ne veut pas faire et que surtout le gouvernement ne veut pas, puisque leur grande angoisse en juillet, c'est qu'il reste même 2 heures libres sur le territoire français. Donc évidemment, c'est une hypocrisie totale, c'est un formalisme, surtout qu'il renvoie devant une autre cour d'appel, autrement composée. C'est pas définitif, si vous voulez, il y aura une audience. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les bombes américaines font des morts au Liban, en Palestine et ailleurs, la Cour de cassation ne trouve rien de mieux en pleine guerre de dire qu'il ne doit pas être libéré, ce qui est une argutie complètement stupide et qui n'a pas vraiment de conséquences juridiques dans la mesure où il n'y a pas de convention d'extradition pour les nationaux entre le Liban et la France.
Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce, elle dure 1 minute 29. Le temps pour vous peut-être de régler la caméra un tout petit peu, c'est-à-dire parce qu'on voit pas le haut de... voilà, mais tout va bien. Là vous êtes parfait. Même sans robe, vous êtes parfait. Voilà, là c'est bon le cadrage. J'envoie la bande-annonce et on se retrouve dans 1 minute 29. Je rappelle, l'affaire Abdallah de l'ami Pierre Carles, ça sort partout en France dans quelques salles, demain, mercredi 8 avril. Ah.
Effectivement, c'est un cas unique. Hein.
Un attaché. Tu es à Paris ?
Donc il n'y a aucun chef d'inculpation sérieux contre Abdallah ?
Aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui n'est sérieux.
Il est en prison pour les actions en 1982, mais pas pour les attentats terroristes de 1986.
Et en fait, après, on a appris que c'était plutôt des attentats qui étaient organisés par des forces pro-iraniennes.
Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Et comment ne pas se poser des questions lorsque...
Vous n'avez jamais douté de ce que la police
disait ? Mais si, bien sûr.
Oula, on a écrit des bêtises quand même, hein.
En règle générale, au bout de 15 ans, on peut demander une libération conditionnelle.
Il y a plusieurs demandes à nouveau de libération, toutes rejetées.
Toutes rejetées.
Les Américains voient en Abdallah un terroriste extrêmement dangereux.
We don't think he should be released.
Un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues.
Mais la France est un pays indépendant.
Ah bah oui.
Abdallah.
Georges Abdallah.
Georges Abdallah.
C'est la 13e manifestation devant sa prison. On espère que c'est la dernière.
Voilà, c'est du Pierre-Carles Purgelu avec le rôle des médias. Je vois que dans le chat, on s'en prend à Edoui Plenel. Il en est question dans le film. Edoui Plenel était venu au poste et s'en était expliqué. Mais d'abord, Maître Chalancé, peut-on reprendre au tout début pour cette affaire, en quelques mots? comme si c'était la première fois que vous la racontiez, voyez.
Au tout début, bah écoutez, il a été arrêté pour détention de faux papiers à Lyon. Ensuite, de façon inopportune, on a découvert des armes qui ont servi à l'assassinat de diplomates israéliens et américains. On lui a attribué non pas les meurtres, puisqu'il a été condamné pour complicité, et ensuite, on lui a fourni. Il avait un avocat qui travaillait pour les services de police, son premier avocat. Ensuite, il a désigné Jacques Vergès, qui a défendu avec Mazurier, l'avocat des services secrets, Abdallah. Les preuves ont été apportées par les États-Unis par l'intermédiaire de l'avocat qu'ils avaient choisi, George Kegeman. La CIA et le FBI ont produit les preuves au procès. Et il y a eu des pressions américaines tout au long de la procédure pour qu'il soit condamné à perpétuité. Et alors que le procureur avait demandé 10 ans de prison, il a été condamné à perpétuité. Et à l'époque, il n'y avait pas d'appel possible devant une cour d'assises. Et ensuite, des demandes, depuis 1999, il est libérable. De nombreuses demandes, environ 10 ont été présentées. La première a été acceptée, mais sur appel du procureur, la cour de Pau a infirmé. Et ensuite, réforme judiciaire s'est centralisée à Paris par les juges antiterroristes qui sont évidemment plus malléables que les juridictions régionales. Et un refus total parce qu'il n'y a pas de repentir, parce que ses idées n'avaient pas changé. Et juridiquement, parce qu'il n'y avait pas d'arrêté d'expulsion de la part du ministre de l'Intérieur, qui, même lorsque le tribunal a estimé qu'il devait être libéré, Manuel Valls, a refusé, avec l'accord de François Hollande, on le dit, on le voit très bien dans le film, hein, Hollande, finalement, a l'honnêteté.
On verra l'extrait tout à l'heure, parce que Pierre m'a fourni 3 extraits, donc on regardera l'extrait avec François Hollande et Manuel Valls.
Et Hollande, effectivement, dit qu'il y a des pressions extérieures américaines qui ont été permanentes. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai plaidé, ou l'avant-dernière fois, il y avait encore une lettre du gouvernement des États-Unis d'Amérique transmise par leur avocat au juge en disant « ne le libérez pas ». Donc ça, c'est des pressions, effectivement, et la lâcheté des dirigeants français qui ont toujours refusé de froisser les intérêts américains et israéliens.
Alors, vous n'avez pas parlé de la fraction armée révolutionnaire libanaise. Donc ça, c'est quand même important. Georges, Ibrahim Abdallah.
Des fractions armées révolutionnaires libanaises. Georges est un militant libanais marxiste d'origine chrétienne. Je vous parle de ça parce qu'on a dit à une époque qu'il s'était converti à l'islam, ce qui est vraiment totalement ridicule, pour rejoindre les islamistes.
C'est pour ça que je vous ai demandé comment on doit l'appeler. Est-ce qu'on doit l'appeler Georges ou est-ce qu'on doit l'appeler Ibrahim? Parce qu'évidemment, ça n'a pas...
Son prénom,
c'est
son
ça. Prénom qui est
qu'il utilise, c'est Georges.
D'accord, d'accord.
Voilà, personne ne l'appelle Ibrahim, si vous voulez. Tout le monde l'appelle Georges.
Très bien.
Et donc, il a été blessé lorsqu'il s'est opposé à la première invasion israélienne du Liban en 1978. Il a rejoint les rangs du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, seule organisation aujourd'hui marxiste de résistance à l'occupation. Et ensuite, son organisation, dont il était membre, a décidé de porter la résistance à la suite de l'invasion israélienne appuyée par les Américains, de porter la résistance à cette occupation à l'extérieur du Liban, c'est-à-dire en Europe, contre les intérêts américains et israéliens. C'est exactement les termes que j'ai évoqués devant toutes les juridictions qui me regardent toujours avec des yeux ronds, si vous voulez, lorsqu'on parle de résistance pour quelqu'un. Pour eux, à partir du moment où il y a emploi des armes de la part d'une opposition, c'est plus de la résistance, c'est du terrorisme. Et c'est pour ça que j'ai rappelé, et c'est ce que je dis à Georges d'ailleurs dans le film, la citation de De Gaulle qui dit bien qu'il s'agit d'une résistance du peuple palestinien et des Libanais à l'occupation.
En 1982, les FARL, dont il est, alors il est considéré comme un des chefs. Peut-être que vous contestez ça.
Les FARL, c'est un tout petit groupe. Hein.
Donc on est vite chef.
Jamais dénombré plus de 15 militants, si vous voulez.
Oui, d'accord.
Un des dirigeants, oui, il était un des dirigeants des FARL.
Voilà. Donc, ce sont eux qui ont revendiqué l'assassinat du lieutenant-colonel Charles Ray, attaché militaire américain à Paris, et de Yakov Barsimantov, diplomate israélien, membre du Mossad. Lui, il n'est pas, vous venez de le rappeler, il n'est pas condamné pour ses morts, mais pour complicité. Néanmoins, et c'est son droit, il va toujours s'associer en fait à ces actes-là. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de dénonciation des petits copains, etc. Hein, on est bien d'accord.
Tout à fait. Il estime que ces actes sont légitimes dans le cadre de la résistance.
Voilà. Et le 24 octobre 1984, il est arrêté et il est emprisonné. C'est à partir de là que démarre ce qu'on pourrait appeler l'affaire Abdallah, qui est retracée par le film. Le chat nous dit, tiens, le nom de Mitterrand ne sort pas.
Non, si vous voulez, parce qu'à l'époque, c'était la cohabitation, quand il a été arrêté, en tout cas quand il a été condamné, et donc c'est les ministres Pasqua et Pandreau qui sont responsables du mensonge d'État qui a consisté à dire que c'était la famille Abdallah et Abdallah qui était responsable des attentats de 1986.
Alors ça, c'est très important, mais il faut quand même rappeler. En 1986, Paris est dans le sang. Il y a une vague d'attentats absolument incroyable, hein, des attentats toutes les semaines. On est d'accord, hein ?
Oui, tout à fait. Rue de Rennes, Tati, oui.
Rue de Rennes, Tati, voilà, pour ceux qui se souviendraient de ça. Lui, il est en prison, mais en fait, il va y avoir un tour de passe-passe où on va dire il est lié à ces attentats, c'est ça ?
Par ses frères, c'est-à-dire que Pasqua et Pandreau qui l'ont reconnu après en disant on n'a aucune piste, donc on a laissé faire en disant que c'était, on a induit que ça pouvait être la famille Abdallah, donc les frères Abdallah qui avaient pris un avion privé pour faire Beyrouth via Vienne, qui en 24 heures pouvait être au Liban dans la montagne, faire l'attentat et revenir. Enfin, des choses tout à fait délirantes qui aujourd'hui on sait que c'est faux, puisque d'abord on a arrêté celui qui a posé la bombe de la rue de Rennes, qui n'a rien à voir avec la famille Abdallah, ni avec un militant révolutionnaire. Hein. Il s'agit de, a priori, à la demande de l'Iran, ou d'un attentat fait par des islamistes. Et voilà. Donc il y a un mensonge d'État propagé et repris notamment par Le Monde et tous les autres journaux pensant que l'information du Monde était valable ont repris en cœur sans aucune vérification, ce qui fait que ça fait les premières pages des journaux, l'affaire Abdallah, comment se débarrasser d'Abdallah, responsable des attentats, etc.
Voilà, et donc là, évidemment, ça fait le sel de l'ami Pierre Karl, qui passe une bonne partie de son film à rappeler l'implication plus ou moins volontaire des journalistes. Certains reconnaissent s'être trompés, comme Véronique Brocard de Libération, qu'on a vu dans la bande-annonce. D'autres, comme Hervé Brusini, qui ne veulent pas tout à fait reconnaître, qui disent « bah oui, on s'est interrogé, mais enfin bon, voilà ». Ça en dit long quand même sur le monde médiatique. Quel regard vous portez, vous, là-dessus, par rapport à cette affaire ? Est-ce qu'on ne prête pas un peu trop de pouvoir au monde médiatique, par exemple ?
Bah, le pouvoir, finalement, c'est simplement qu'ils ne reprennent pas les informations et qu'en France, si vous voulez, la plupart des journaux appartiennent à des vendeurs d'armes, enfin, à une époque ou une autre, si vous voulez. Donc, ouais, des intérêts privés qui sont les ennemis idéologiques de ce que peut être un Georges Abdallah. Donc, évidemment, ils se sont jetés sur l'occasion pour dire, voilà, on a une piste sans aucune vérification, si vous voulez. Et c'est un tel délire lorsqu'on voit ce qui est très bien retranscrit dans le film, c'est les documents d'archives de comment les frères Abdallah ont pu faire les attentats en quelques heures et revenir au Liban, c'est totalement délirant. Et d'ailleurs, ce qui est passé sous silence aussi, c'est le rôle de Pandreau et Pasqua, qui certes ont reconnu, mais Pandreau a même dit un jour au directeur de la CIA « Vous voulez abattre Abdallah, il n'y a aucun souci, si vous voulez, on le libère et on vous dit où il est », pour vous dire un peu l'état d'esprit de ces sous-ministres ou ministres de l'Intérieur de l'époque. C'est pour ça que Mitterrand n'apparaît pas, parce que finalement, au moment de la condamnation, il est certes président, mais lorsqu'il y a les premières demandes de libération, évidemment, il n'est plus président.
Mais vous qui défendez, on l'a dit, de longue date, des prisonniers politiques, des militants de lutte armée, vous avez défendu Action Directe, par exemple. Oui. On a quand même, au début des années 80, ce qu'on appelait la doctrine Mitterrand, c'est-à-dire un regard pour le coup politique sur ses agissements en disant ça n'est pas que délictuel, ça n'est pas que criminel, il y a une charge politique, on peut discuter de choses et d'autres, ce qui est aujourd'hui tout à fait inaudible. Mais en fait, quand on regarde l'affaire Abdallah, on a l'impression que pour lui, ça ne marchait pas, cette histoire-là.
Non, alors, ça fait longtemps que ça ne marche pas, non seulement pour lui, mais même pour les autres, si vous voulez.
Oui. En
fait, Mitterrand, il a fait une loi d'amnistie en 80, extrêmement généreuse, qui fait qu'aucun militant, même ceux poursuivis pour des actes dits de sang, n'est resté en prison. Tout le monde a été libéré en 1981. Bon, ça c'est extrêmement clair. De même, en ce qui concerne les militants italiens, dont certains que j'ai défendus, à l'époque de Mitterrand, il n'y avait pas d'extradition. Les extraditions ont commencé à se poser avec Sarkozy, bien sûr, et même avec Chirac. Et sous Macron, c'était encore pire, puisque Macron, lui, il a même estimé il y a 2 ans, lorsqu'on est revenu sur des vieilles affaires pour qu'il y ait une extradition, qu'il fallait bien trouver une solution après les décisions de la Cour d'appel pour qu'il retourne en Italie. C'est-à-dire que lui, il est prêt à violer tout droit, si vous voulez, pour simplement plaire aux dirigeants italiens. Bon, quoi qu'il en soit, pour Georges Abdallah, c'est vrai que je me suis heurté à une difficulté, parce que finalement, pour les militants d'Action Directe, ils ont été libérés, condamnés exactement aux mêmes peines, perpétuité pour des faits d'assassinat ou de complicité. Ils ont été libérés à 22, 23, 24 ou 25 années, selon les cas. Pour Georges Ibrahim Abdallah, quand j'ai pris sa défense après le décès de Jacques Vergès, je pensais vraiment que ça serait un petit peu pareil. Et là, je me suis heurté à ce que je n'avais pas tout de suite appréhendé, à savoir que c'était un terroriste arabe pour les juges. Alors, qu'il soit chrétien, marxiste, ça atténue un petit peu les choses, mais pas tant que ça. Il est arabe et il est terroriste pour eux. Et il ne voulait absolument pas prendre la responsabilité de libérer ce qu'ils appellent un terroriste. Alors, ils l'ont fait pour Action Directe, mais pour Action Directe, si vous voulez, on avait des partis civils qui étaient la famille de Georges Besse ou la famille du général Audran, qui étaient beaucoup moins acharnés et qui ne s'opposaient pas vraiment aux libérations, à la différence d'un État comme les États-Unis.
Je vous propose qu'on regarde un deuxième extrait du film qui sort demain sur les relations France-Iran. J'espère que le son va se réactiver. J'envoie.
Les Iraniens nous avaient déclaré la guerre, mais personne ne le savait. Et personne ne le comprenait. Moi, le premier. Il y avait le contentieux Rodif. Nous devions de l'argent aux Iraniens qu'on ne remboursait pas. Le Shah nous avait prêté de l'argent pour installer des systèmes d'énergie nucléaire. On n'a pas rendu l'argent. La France n'a pas honoré sa dette. Nous avons prêté à Saddam Hussein l'Irakien en guerre contre l'Iran. Nous avons déshabillé notre aéronaval pour lui prêter des avions super étendards armés de missiles Exocet pour aller taper les Iraniens. Et comme les Iraniens m'ont dit, vous êtes venus frapper, nous montrer les photos, vous êtes venus frapper nos hôpitaux avec vos avions super étendards, etc. Vous vous rendez compte, bon, même si ce n'était pas forcément ça. Mais enfin, ils nous ont montré. Donc, nous avions déclaré la guerre à l'Iran.
Et on commence à entendre parler d'Abdallah. Le canard enchaîné commence à dire des choses. Là commence l'histoire Abdallah. Abdallah, lui, il est en prison, Georges Ibrahim Abdallah.
Il est en prison pour les actions menées par les FARC en 1982, mais pas pour les attentats terroristes de 1986.
L'ombre des FARC, oui, non, mais ça, il y en a plein les journaux tous les jours. Tous les jours.
Oula, c'était pas forcément. On a écrit des bêtises quand même. Hein.
On a écrit des bêtises quand même. Quand on regarde le film comme je l'ai fait avant-hier pour une deuxième fois pour préparer cet entretien, je me suis dit mais combien ça résonne avec l'actualité. C'est-à-dire de quoi on parle? On parle du Liban et on parle d'Israël, évidemment. On parle de l'Iran, on parle de l'Irak. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses?
Si vous voulez, sur le Liban, c'est certain, puisque c'est avant tout un militant libanais engagé, comme toute la gauche libanaise à l'époque, pour la libération du peuple palestinien. Donc c'est évidemment extrêmement lié. Son combat est celui-ci et il est resté pendant toutes ces années en prison. Vous savez, Georges, quand vous alliez le voir, que ce soit son avocat ou des visiteurs, il vous parlait de la situation au Moyen-Orient pendant 1h30 déjà, puisqu'il était au courant de tous les détails, beaucoup plus que nous, puisqu'il correspondait avec le Liban tous les jours, et qu'il est sorti tel qu'il est rentré en militant communiste tel qu'il se définit. Donc évidemment, c'est lié à l'actualité.
Est-ce que ça donne un argument pour aller voir le film, par exemple ?
Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est d'abord de voir le traitement de l'information aux années 80 avec cette source policière, avec ce scandale d'État qui consiste à avoir un avocat qui travaille pour les services secrets, ce qui est quand même rarissime dans l'histoire, enfin même unique à ma connaissance, dans l'histoire judiciaire française, et avec un avocat qui avait été ministre de Mitterrand des États-Unis, qui d'ailleurs, dans un de ses livres, le dernier livre qu'il a écrit, je crois, enfin des entretiens, a dit que Georges Abdallah devait être libéré. Ce que j'ai d'ailleurs rappelé à son associé qui défend toujours les États-Unis en disant « Mais votre mentor, lui, a dit qu'il va être libéré. » Donc vous pouvez toujours vous dire qu'il reste en prison. Ben, ça fait une petite contradiction.
On a vu dans l'extrait un dénommé Alain Marceau. Tout le monde ne se souvient pas de ce grand homme, mais ça fait partie des coups de force du film, parce que Alain Marceau, on ne s'attend pas à ce qu'il soit du côté de Georges Ibrahim Abdallah d'une certaine manière. Rappelez qui il était et ce qu'il dit au fond.
En fait, il y a eu un vide juridique entre l'arrivée de Mitterrand 1981 et donc disparition de la Cour de sûreté de l'État qui avait été instaurée par De Gaulle pour juger les félons d'Algérie et ensuite les militants d'extrême-gauche, cour militaire. Et en 1986, sous Mitterrand, on a instauré une loi antiterroriste avec des nouveaux textes et Marceau fut le premier procureur, chef de la section antiterroriste. Donc c'était vraiment l'ennemi de tous les militants. Il était de droite, d'ailleurs, il était député ensuite RPR, je crois, de Limoges, si je ne me trompe pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il a pris une position dans le film assez courageuse lorsqu'il évoque l'impérialisme judiciaire américain. C'est pas tout à fait. Alors, si vous voulez, c'est aussi des susceptibilités entre magistrats, entre Bruguière et lui, par exemple. Bruguière étant totalement inféodé aux États-Unis, il le reconnaît d'ailleurs dans le film.
Oui, on va le voir. On va voir un extrait. Oui, oui.
Et Marceau. Mais c'est vrai que quand nous, on a connu, enfin moi, ce que je défends des militants depuis 1982, je crois, premier militant que j'ai défendu, Marceau, si vous voulez, c'était vraiment l'ennemi.
C'est ça.
Tout avocat qui défendait un militant, il était acharné, si vous voulez.
C'est ça, c'est ça. Mais est-ce que ça laisse pas un goût amer de voir que, d'une certaine manière, la vérité à laquelle vous croyez jaillit 30 ans plus tard, par ceux-là même qui ont œuvré pour qu'elle n'apparaisse pas. C'est-à-dire que Alain Marceau et d'autres, là on pourrait parler aussi de d'Yves Bonnet, l'ancien des patrons des services, est-ce que ça laisse pas un goût amer malgré tout ?
Si vous voulez, ça laisse un goût amer, oui et non, dans la mesure où ces hommes, lorsqu'ils sont au pouvoir, sont des ennemis de ceux que je défends et font tout pour qu'ils restent en prison. Et lorsqu'ils n'ont plus de fonction, redeviennent presque nets. On va dire ça comme ça. Donc c'est simplement l'évolution des hommes, si vous voulez. Ils obéissent à un pouvoir qui veut à tout prix mettre hors de nuit ceux qu'ils considèrent comme ses ennemis.
On va parler des pressions américaines. Là aussi, ça résonne avec l'actualité. Ça va se passer en 2007. Mais d'abord, en 1999, c'est le moment où Georges Ibrahim Abdallah devient libérable. Il va y avoir 10 demandes de remise en liberté conditionnelle. Que vous allez en déposer 9, je crois, c'est bien ça ? Ou les 10 ?
Moi, non, mais en tout, oui, entre Vergès et moi, oui.
C'est ça.
10 en tout, oui.
Elle reste lettre morte, ces demandes de remise en liberté. Pourquoi ?
Elle ne reste pas lettre morte, si vous voulez. La première, d'ailleurs, a été accueillie par le tribunal de Tarbes, si je ne me trompe pas. Mais la cour de Pau a dit non. Et ensuite, elles ont toutes été refusées. Et les arguments invoqués avant les arguments juridiques, c'était absence de repentir, n'a pas changé d'idée, etc. Et j'ai toujours rappelé devant toutes les juridictions qu'il n'y avait pas le repentir, ce n'était pas une notion juridique, mais une notion morale, et qu'évidemment, on ne pouvait pas demander à un militant politique qui était emprisonné, parce qu'il a les mêmes idées, de considérer que c'est un risque de récidive. Mais même Georges, une des dernières fois, je crois, une des motivations, c'était de dire qu'il pouvait causer des troubles au Liban s'il était libéré. Et ça, c'était en pleine guerre, je ne sais plus quel bombardement israélien, on disait que sa libération pourrait entraîner des troubles alors que le pays était bombardé. Donc vous comprenez un peu le niveau, quelquefois d'inculture des juges, il faut tout de même le dire, quelquefois vous leur parlez de sabre et châtier, là ils vous regardent avec des yeux ronds, il faut leur expliquer ce que c'est. C'est le pourquoi, si vous voulez, il est la pression des États-Unis, la pression non dite des Israéliens, en tout cas c'est ce que Hollande a dit, même s'il ne le dit pas dans le passage que vous allez diffuser, il est bien certain qu'il ne voulait pas froisser. Alors, m'a-t-on dit le CRIF, bon, enfin, le CRIF ça représente 20 000 personnes, ça ne représente pas grand-chose, et puis de toute façon, les attentats n'ont pas été commis contre la communauté juive, ce n'est pas des attentats antisémites ou islamistes, mais tout à fait politiques contre un agent des services secrets israéliens.
Nous avons vu une silhouette passer derrière vous, je vous le dis juste, dans les couleurs de poste orange. Merci infiniment pour ce petit détail. Je vous propose encore un deuxième extrait, il nous en reste deux. Là, on est en 2007, vous parliez tout à l'heure de Jean-Louis Bruguière, je pense que c'est dans celui-ci qu'il va y avoir l'espèce de défense un peu compliquée par Bruguière. Pouvez-vous rappeler qui était Jean-Louis Bruguière ?
Jean-Louis Bruguière, c'est un juge d'instruction qui était d'abord en province et qui ensuite est arrivé à Paris et qu'on a nommé, à l'époque il n'y avait pas de section antiterroriste, qui a commencé à instruire des affaires où il y avait des militants. Et ensuite, on lui a donné le titre de chef des juges antiterroristes en quelque sorte. Bon, écoutez, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé d'avoir d'autres postes que magistrat, qui pensait que Sarkozy allait nommer directeur de la DST, il l'a nommé rien du tout, même pour ses services rendus, si vous voulez, à la droite. Il s'est présenté à la législative à l'époque du RPR, ou je ne sais plus quel parti, il a été battu. Et donc, c'est un juge, si vous voulez, qui n'a que ses souvenirs pour lui, qui pense qu'il était très important, alors que c'était simplement, un serviteur servile de l'État qui l'employait.
Ça a été quand même une grande star dans les... Je me demande si ce n'était pas l'UMP, mais peut-être c'était RPR. L'UMP, oui. C'est possible. Mais disons que ça a été une grande, grande star de l'antiterrorisme, on va dire. Hein.
Oui, c'est ça. On le surnommait l'amiral, si vous voulez, parce qu'un jour, il est parti sur un bateau pour la Libye. Enfin, c'était n'importe quoi. Enquêter, si vous voulez. Il aimait ça, mais bon. Et il avait surtout un côté tout à fait... Il était toujours armé sur lui. Alors, il nous sortait son flingue, si vous voulez, avant que les instructions commencent. Je lui disais, vous pouvez ranger ça, hein, c'est pas la peine. Hein. Et donc, il le rangeait. Et surtout, il avait la particularité de détester les femmes qui étaient poursuivies et de militantes de lutte armée. Alors ça, les femmes, ça ne lui passait pas, si vous voulez, qu'elles puissent avoir une arme sur elles et s'en servir éventuellement, que ce soit des groupes italiens, français, espagnols, parce que j'ai défendu beaucoup de gens dont il instruisait les affaires, notamment italiens, espagnols et français, et donc ça, il ne supportait vraiment pas.
Pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'être armées ?
Faut lui demander à lui, hein.
Oui, bien sûr.
Mais manifestement, si vous voulez, une femme pour lui, ça pouvait pas avoir une arme, et donc il est détesté. Je me rappelle d'une militante qui était mutique devant lui, et au bout d'un quart d'heure, il disait dehors, maintenant ça suffit, parce qu'elle répondait à aucune question, ce qui est son droit, si vous voulez, et elle regardait le plafond. Et donc ça, vraiment, ça le mettait hors de lui, et il avait cette détestation. Alors, si elle était jolie, encore plus, si vous voulez. Ça, il comprenait pas que, voilà, vous voyez le type d'individu qu'il était à l'époque, en tout cas.
Alors, allons-y, troisième extrait, j'espère que je ne me trompe pas, oui je pense que, attendez, une petite seconde, non, c'est l'extrait 2 que je dois mettre, alors attendez, excusez-moi, je vais le chercher, il est là, voilà, c'est celui-ci, bah oui, c'est bien lui, Bruguière, Jean-Louis, 2 minutes.
Ça c'est tout, le câble est faux, la manip, je comprends pas, 2007, des représentants du département de la justice, pas des magistrats, enfin du département de la justice américain. On collaborait en permanence. Moi, j'étais fourré à Washington tout le temps.
Vous ne croyez pas qu'il y a d'ingérence des États-Unis dans ce dossier?
Non, mais ils peuvent tout faire. Non, mais le problème, c'est de savoir ce qu'on a, ingérence ou ingérence. Est-ce que le fait pour un homme politique ou des hommes politiques de dire, parlant dans un contexte, nous souhaiterions que, nous voudrions que pour telle et telle raison, est-ce que c'est de l'ingérence? Je ne pense pas que ce soit de l'ingérence.
Ah ben eux, ils envoient des notes. Hein. Et après, la justice française y reçoit ces notes, et ça passe par le Quai d'Orsay, par tout ce que vous voulez. Et puis après, on dit, on va vous libérer. Voilà.
Mais la France est un pays indépendant.
Ah ben oui.
Voilà. La France est un pays indépendant. Ah bah oui. Autre extrait. Pierre Kahle a réussi à faire parler tous ces gens-là. Mais au-delà de ma question tout à l'heure sur l'amertume, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces de tous ces points de vue qui reconnaissent plus ou moins qu'il y a eu manipulation? Par rapport à votre travail depuis toujours, ça vous, bon, évidemment, vous allez me dire, ça me donne raison, c'est bien ça.
C'est sûr, ça me donne raison. Enfin, ça donne raison à tous ceux qui l'ont défendu et aux militants qui, depuis 20 ans, dont certains quotidiennement l'avaient au téléphone et le défendaient. Parce que c'est vrai qu'on n'en parlait plus beaucoup il y a 20 ans de Georges Abdallah, si vous voulez. Il n'avait pas de comité de soutien, on savait à peine. Qu'est-ce que je peux dire de ces gens, comme je vous l'ai dit, lorsqu'ils sont à la retraite, ils deviennent plus honnêtes, c'est tout.
Mais est-ce que ça ne donne pas une vision un petit peu simple du monde, où il y aurait d'un côté les libérateurs et de l'autre côté les manœuvriers? Ou est-ce que c'est comme ça?
Non, c'est pas comme ça, si vous voulez. Vous avez une justice qui est au service, même si elle se dit indépendante. Alors après, vous avez des décisions qui reflètent l'indépendance de la justice. Les juges qui ont libéré Abdallah, que ce soit en première instance ou en appel, sont relativement indépendants, puisque le parquet s'est toujours opposé, le procureur, qui est aux ordres, lui, de l'exécutif. Donc, si vous voulez, ils peuvent aussi faire preuve d'une certaine indépendance en se disant « ça suffit ». Ça fait des années qu'il y a des juges qui disent « ça suffit, faut trouver une solution à cette libération ». Mais vous avez le pouvoir de l'État et de ses serviteurs qui est extrêmement puissant. Et puis, maintenant, si vous voulez, vous mettez le mot « terroriste », emploi de la violence, autre que celle qui est légitime. Et dans ce cas-là, on vous classe immédiatement comme quelqu'un qui doit finalement mourir en prison ou être condamné à mort alors que la peine de mort n'existe plus. Comme disait Badinter sur une question à l'Assemblée nationale sur la peine de mort, les députés de droite voulant qu'il y ait une perpétuité réelle, il a dit on ne remplace pas un supplice par un autre supplice. Mais ça ne les intéresse pas du tout. Ceux d'aujourd'hui, ils veulent que les gens meurent en prison lorsqu'ils sont considérés comme des ennemis déclarés comme Georges Ibrahim Abdallah.
Oui, il y a quand même un point énigmatique dans l'affaire Abdallah, c'est que, vous venez de le dire, à un moment donné, il n'y avait plus grand monde pour s'intéresser à son sort, donc de faire de lui un cas d'espèce pour prévenir finalement les autres, hein, tous les autres qui seraient tentés par la lutte armée, par exemple, ou par la résistance armée, en fait, là, ça ne marche pas vraiment, puisque à un moment donné, il y a vraiment le creux de la vague où Il ne peut pas vraiment servir de modèle ou d'antimodèle.
Non, mais ce n'est même pas une question d'antimodèle, même si Urvehas, qui a été garde des Sceaux quelques mois à l'Assemblée, a dit « Regardez, la perpétuité réelle existe en France, regardez le cas Abdallah ». C'était il y a 5 ou 6 ans, je crois. Bon, mais ça, c'était des arguties politiques, politiciennes, si vous voulez. Ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est vrai, ce qui est exemplaire dans l'affaire Abdallah, en dehors du traitement judiciaire, en dehors de l'opposition du pays le plus puissant du monde à sa libération, c'est aussi que c'est un militant qui a toujours été debout du premier au dernier jour, et qu'il est sorti, comme vous avez vu, et comme on le voit un petit peu dans le film, ces images totalement hallucinantes où il arrive à Beyrouth. Il faut imaginer quand même que le 25 juillet, il est à Lannemezan dans sa prison, et qu'à 3 heures du matin, je lui avais dit, moi je l'ai vu le 24 la veille, vous pouvez être libéré à partir de minuit. Qu'à 3 heures du matin, 7 voitures de policiers du RAID et le préfet viennent le chercher pour l'amener dans un avion militaire, ce qui est tout à fait délirant, alors qu'il suffisait de le mettre dans l'avion pour Roissy, si vous voulez, où il a pris le vol pour Beyrouth. Donc, traitement exceptionnel, considéré comme tel par l'État et par les États, parce que c'est devenu aussi un symbole de résistance en prison et un exemple pour tous les prisonniers. Enfin bon, lui, il se trouve qu'il n'est pas dans une prison israélienne et que les conditions sont quand même moins dures dans une prison française que dans les prisons où on peut être torturé ou affamé comme en Israël.
Et il arrive à Beyrouth et on voit qu'il est acclamé tel un héros, hein, tout de même.
Ben, si vous voulez, oui, il est acclamé parce que tout le monde sait au Liban, sauf l'extrême droite libanaise, les descendants des phalanges, hein, qui sont des fascistes et qui ne le traitent même pas de Libanais, ils estiment qu'il est palestinien. Ce qui est évidemment tout à fait ridicule, puisqu'il est évidemment Libanais d'origine et toute sa famille dans son village de Koubayat. Mais oui, parce que c'est un résistant, ce qui revient au pays, et que quels que soient les gens, quand je suis allé au Liban avant qu'il soit libéré, pour sa libération, je parlais à des gens de droite, de gauche, et ils estimaient qu'il devait être libéré, qu'il devait revenir au pays. Donc, il est considéré comme un résistant par la quasi-intégralité du peuple libanais.
Alors, nous avons vu les gens des services, nous avons vu les gens de la justice, nous avons vu les médias, et il nous reste à regarder très rapidement le dernier extrait que nous offre Pierre Karl et sa fanfare, qui concerne justement François Hollande. Vous en parliez tout à l'heure, puisque l'affaire Abdallah, d'une certaine manière, c'est à peu près tous les quinquennats et les septennats depuis les années 80. Donc c'est quand même assez incroyable. On le disait tout à l'heure, presque 41 ans de détention. Et donc vous allez voir François Hollande qui dédicace dans une séance de dédicace et qui se fait gentiment questionner, interpeller par une lectrice. Mais avant ça, il y a le dénommé Manuel Valls et on revient juste après Maître Chalancé pour en parler. Ah, une erreur s'est produite. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Essayez plus tard. Attention. Voilà, c'est parti.
Est-ce que ce n'est pas problématique ? Est-ce que ce n'est pas une ingérence en fait, des Américains dans les affaires françaises ?
Mais moi, je n'ai jamais eu le sentiment de subir la moindre pression de la part de Laurent Fabius, qui lui-même aurait subi une pression amicale, mais forte de la part de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton.
C'est bon, c'est bon.
Merci.
Ben merci à vous. Et je voulais vous dire, moi je m'étais pas mal investie au moment de la libération de Jacqueline Sauvage, que
oui,
vous aviez gracié.
Bien sûr.
Et pendant le même mandat, il y avait eu un prisonnier qui n'avait pas été gracié, par contre, et cela nous avait un petit peu, enfin ça avait étonné du monde, c'était Georges Ibrahim Abdallah, l'étant communiste lui-même.
Oui,
voilà, et c'est justement, moi je travaille un peu sur cette histoire. Et je me
demandais... Parce que les Libanais souhaitaient qu'il soit libéré. Mais ça posait des problèmes de précédent, parce qu'il avait quand même commis des actes terroristes.
Oui, mais c'est vrai que la justice l'avait rendu libérable, il me semble, au moment de votre présidence, et que Christiane Taubira c'était plutôt avait demandé un arbitrage.
Oui, ouais, c'est vrai. Vous auriez pu le libérer parce qu'il avait, il était au bout.
Oui, enfin le juge de l'application des peines l'avait rendu libérable et c'était Manuel Valls qui n'avait pas.
Oui, et puis les pays étrangers aussi étaient très.
Ah oui.
Très réticents.
C'était quel pays ?
Bah, tous les pays qui avaient eu à connaître des actes terroristes, je ne parle pas simplement des Israéliens, mais de la région. Enfin. Même si ça remontait à très loin, parce que les actes terroristes d'Abdallah, ils sont début des années 80.
Oui, c'est ça. Mais il y avait eu aussi ce mail d'Hillary Clinton à Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, ouais. Qui demandait d'intervenir pour éviter la libération aussi.
Aussi
je
ne
sais pas si ça avait joué dans l'arbitrage.
Oui, ça avait joué. Les États-Unis étaient aussi hostiles, etc. Ouais.
Voilà, scène d'anthologie. Je vois que le chat traite Hollande d'anguille, hein, mais quand même. Il prend 2 minutes pour répondre. Il y a quelque chose d'étonnant.
Oui, c'est le seul qui répond et qui prend un peu de temps et qui a l'honnêteté, entre guillemets, enfin l'honnêteté quand même, de dire, mais ah, vous savez, il y avait des pressions internationales, hein, des pays puissants, autre chose, des intérêts, etc.
On appellerait ça des aveux.
En tout cas, il reconnaît. Mais moi, je me rappelle très bien, parce qu'il y avait un député socialiste, le seul, dans le Nord, qui était allé voir Georges et qui est venu me voir ensuite et qui m'a dit, écoutez, moi je connais bien Hollande, je vais essayer de lui en parler, si vous voulez le rencontrer, pour essayer de le convaincre. Je lui ai dit, écoutez, si je suis obligé, pourquoi pas, mais enfin bon, si je peux m'en passer, je m'en passerai. Et de toute façon, il n'y a pas eu de rencontre puisque le député a discuté et Hollande lui a dit, ah non, vous savez, oui, j'aimerais bien, mais non, il y a les... Donc, je savais ce qu'il allait dire, mais je ne pensais pas qu'il le dirait en public, si vous voulez. C'est ça qui est quand même extraordinaire. De la part d'un ancien président de la République, Et par contre, Valls, si vous voulez, est tout à fait ignoble dans ce qu'il dit, en disant, lui, de toute façon, c'était clair, sinon il aurait été libéré en 2013. Les juges avaient dit d'accord s'il y a un arrêté d'expulsion. C'est le formalisme que j'ai évoqué tout à l'heure.
C'est ça, absolument. Alors, il y a une autre scène qu'on ne va pas montrer, mais qui est extraordinaire d'hypocrisie. Comment ? Laurent Fabius.
J'imagine. Ah oui, non, ça c'est...
C'est rien que pour cette scène, vous pouvez aller voir le film. De toute façon, il faut aller voir le film. Film qui a été refusé, si j'en crois, le dossier de presse par Arte, par France Télé et par Netflix. Et donc, Pierre Karl se retrouve là où il faut, en fait, au cinéma, qui reste encore un espace de liberté.
Oui. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je vais quelquefois à des séances pour des débats éventuels. Il y a toujours des débats avec des questions intéressantes. Enfin, le seul que j'ai fait pour l'instant, avec Pierre Karl ou sans Pierre Karl, parce que c'est assez complexe. Non pas sur le plan juridique, je ne rentre pas dans les détails, mais sur le principe, si vous voulez.
Bien sûr.
De l'opposition des États-Unis, de la falsification avec cette histoire d'attentat. Il faut quand même imaginer que la dernière fois que j'ai plaidé contre Kiechmann, représentant des États-Unis, en 2015 ou 2016, il a ressorti en plaidant le mensonge des attentats de la rue de Rennes. Enfin, je veux dire, je lui ai dit, mais vous savez très bien que c'est faux de toute façon, donc arrêtez de colporter ça. C'est publiquement faux, on le sait maintenant. Mais c'est pas grave.
C'est-à-dire que vous, votre profession vous permet de mentir quand même.
Bah nous, on ment pas, on présente la vérité de notre client.
C'est ça, comme c'est bien dit, maître. C'est parfait. Je voulais juste terminer avec vous sur le fait que il y a tout un tas de gens comme Guédiguian, comme Chomsky, comme Tardy, comme Annie Ernaux, comme Angela Davis, LFI, il y a Daniel Obono, Sylvie Ferrer, il y a eu la Ligue des droits de l'homme, il y a eu France-Palestine Solidarité, l'Union juive française pour la paix, le PC, Révolution permanente, le NPA, lutte ouvrières et d'autres qui ont milité ou qui ont pris position pour votre client pendant un certain nombre d'années. À quoi servent réellement ces soutiens?
Alors, d'abord, je vais vous dire très franchement, jusqu'à il y a 3-4 ans, il n'y avait que les groupes d'extrême gauche. Il n'y avait pas l'équivalent de LFI et autres qui ne soutenaient pas ni le Parti communiste.
Ah, parce que vous ne mettez pas LFI à l'extrême gauche, vous? Non, c'est une blague. C'est une blague de Conseil d'État, vous voyez.
J'ai bien compris, oui. Si vous voulez, moi je me rappelle encore de Chassaigne qui dirigeait les députés communistes, qui est venu me voir il y a 3 ans ou 4 ans, en hésitant. Oui, on lui a parlé d'Abdallah, mais il voulait me voir avant d'aller le voir, pour savoir, vous voyez. Ils étaient tous très frileux. Mm-hmm. Donc, ça fait que 3-4 ans que les partis qui ont des députés, on va dire ça comme ça, ont pris fait et cause, de gauche ont pris fait et cause, enfin pas les socialistes, puisque j'avais une liste de 70 députés, 72 je crois, qui ont signé il y a 2 ans ou 3 ans pour Georges Abdallah. Il y avait principalement des LFI, quelques PS, quelques Verts et un centriste. Un modem qui est toujours original parce que c'est les amitiés franco-libanaises. Mais qui est honnête hein, dans son soutien. Donc, si vous voulez, les partis dits de gouvernement, entre guillemets, ça ne fait pas très longtemps. Voilà. Et même les soutiens, les organisations palestiniennes, genre la FPS, ils ont mis aussi du temps, ils voulaient absolument me voir avant de soutenir. Voilà. C'est plus à la demande de leur base qu'ils ont soutenu, si vous voulez, que spontanément. Non, pour vous expliquer que la différence entre un militant de lutte armée, qu'il soit libanais ou pas, et un militant d'illégaliste. Donc les soutiens ne sont pas les mêmes, et ceux-ci ont été tardifs, mais il y a très peu d'intellectuels finalement consignés pour lui. Pour Jean-Marc Rouillant, il avait été réuni de très, beaucoup plus de signatures d'intellectuels que pour Georges Ibrahim Abdallah. Encore une fois, cette étiquette terroriste arabe, ça leur fait peur de soutenir.
Mais ce que je voulais vous demander, c'était l'intérêt pour un avocat, pour un détenu, une détenue, une avocate, d'avoir des comités de soutien, parce que il est de bon ton aujourd'hui de dire que tout ça s'émousse, tout ça perd un peu de sa force. On voit quelques drapeaux au pied d'une prison, mais finalement, ça va pas très loin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Non, non, pour lui, ça a été très utile. Elle fait sortir de l'oubli. Alors, d'abord, ils étaient 200, après 400, après 500, après 1000. La dernière manifestation autour de la prison, je crois qu'ils étaient 2 ou 3000, si vous voulez. Donc, ça prenait de plus en plus d'importance. Et je crois que pour les prisonniers, même les prisonniers qui ne sont pas concernés, mais qui sont dans la même prison, le fait qu'il y ait des soutiens de gens qui veulent une libération, c'est un peu théorique, certes, pour les autres qui ne sont pas concernés, mais ça leur fait aussi du bien. Et pour le militant emprisonné, il sait que c'est utile qu'il y ait ce type de manifestation, ne serait-ce que pour la cohérence des comités de soutien. Vous savez, les comités de soutien, quand on est avocat, c'est très particulier, parce que quelquefois, on estime que ça peut desservir selon les propos qui sont tenus publiquement, et donc on fait toujours très attention. Notamment, après le 7 octobre, c'était extrêmement difficile, puisque le but des juges, si vous voulez, c'était de faire croire, pour certains d'entre eux, que Georges était, en tant que terroriste, était favorable aux actions du 7 octobre, alors qu'il ne s'était pas prononcé en la matière et qu'il n'a pas lieu de se prononcer, lui, sur les actions commises à Gaza, à partir de Gaza, pardon.
Je vais vous saluer. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. C'était un plaisir.
Merci.
Et je voulais vous demander quelles sont les suites à attendre de ce qui se passe, ou est-ce que, je veux dire, la décision, la Cour de cassation n'est que théorique, on ne va pas envoyer des militaires français.
Non, de toute façon, ils ont qu'à déjà extrader Carlos Ghosn, qui est Libanais réfugié au Liban, si vous voulez, et encore, lui, il a deux autres nationalités, ce qui n'est pas le cas de Georges. Mais c'est vrai que le gouvernement actuel libanais n'apporte pas...
C'est pas sport, ça, maître, c'est pas sport. De votre part. Non, mais bon, c'est drôle, mais c'est pas sport.
Non, mais si vous voulez, d'abord, c'est renvoyé devant une autre cour d'appel. Donc, je vais replaider pour Georges et je vais leur dire, mais qu'à cela ne tienne, que le gouvernement français donne donc un visa à Georges pour qu'il revienne en France. Jamais ils donneront de visa, tout le monde le sait. Donc, c'est vraiment peut-être pour faire plaisir aux États-Unis, peut-être pour faire plaisir à eux-mêmes, parce qu'ils avaient rendu la même décision il y a 10 ans sur le fait qu'il fallait absolument une semi-liberté, alors que c'était contrecarré juridiquement depuis. Je ne sais pas le sens exact de la décision. En tout cas, la France pourra quand même ça dire aux États-Unis, vous voyez, hein, nous, finalement, on est contre sa liberté. C'est ce genre d'argutie de faible, si vous voulez, de celui qui veut toujours faire le beau devant Trump. Encore que Trump, si vous voulez, en tant que tel, les États-Unis, depuis qu'ils sont dirigés par Trump, n'est pas intervenu pour Abdallah. C'est toujours sous Biden, les dernières déclarations des États-Unis. Je crois qu'il s'en fiche complètement, l'autre. Enfin, ça n'existe pas pour lui, si vous voulez. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc je suis optimiste et ça serait amusant même à la limite de plaider devant la cour pour dire comment voulez-vous, il a été libéré, il est parti, vous voulez quoi maintenant qu'il revienne en France pour faire une semi-liberté sur le territoire français, qu'il soit libre de faire les manifs ce qu'il veut en France. Enfin c'est ridicule si vous voulez. Tout le monde sait que c'est ridicule et la Cour de cassation elle-même.
Merci beaucoup maître, c'était un plaisir de converser avec vous et j'espère à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci beaucoup.
La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Abonnez-vous au poste si vous aimez ce genre d'entretien aux débeautés. Eh bien, il faut nous soutenir pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse tenir. Nous avons un nouveau site, auposte.media, sur lequel vous pouvez assister à tous les lives, revoir toutes les émissions. Et il y a une petite page « Je soutiens au poste ». Et dans cette page, il y a deux possibilités. La première, c'est depuis 2 mois, vous pouvez vous abonner. Il y a des abonnements à 5 euros, à 10 euros, à 15 euros. Il y en a à 2 euros. Ça, c'est le meilleur moyen pour nous soutenir. Si vous êtes imposable, vous pouvez, au nom de l'intérêt général, vous pouvez faire des dons au poste qui sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. C'est-à-dire que si vous faites un don de 50 balles, par exemple, il vous coûte 17,40 euros. Voilà, allez sur auposte.media, c'est pour nous important, vous avez vu qu'on monte en puissance, on a On a dans l'équipe plein de boulot. Il y a notamment Théophile qui nous a rejoint pour les réseaux sociaux, qui fait un travail monstrueux et qui commence à porter ses fruits. Merci Nonoc qui nous dit « Je viens de prendre mon abonnement à l'instant ». Le petit Vapophile, et merci à Pierre Carl pour l'ensemble de son œuvre. Je ne me suis jamais remis du désarroi esthétique. C'est du très bon Pierre Carl, ce film sur Abdallah. Pierre était venu en parler déjà au poste, et c'est la raison pour laquelle ce matin on s'était dit, je m'étais dit voilà, que ce serait bien d'inviter Maître Chalancet. J'aime bien dire maître, et je vais vous dire un truc, les avocats ils aiment bien qu'on les appelle maître, même les avocats d'extrême gauche. Voilà, un petit conseil du matin. Voilà, un des meilleurs de striptease. Ah, je vois que Nonoc est connaisseur. Il y a une émission. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. La prochaine émission, c'est je sais plus si c'est demain ou après-demain. Attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Hop, bougez pas. Voilà. Hop. La prochaine émission, c'est le 9. Écolo, la grande répression depuis Sainte-Soline et ses 200 blessés. Des violences policières envers les militants et militantes écolos sont apparues au grand jour. Mais il ne s'agit que d'un aspect de la répression que vivent les activistes. Hélène Assécourt retrouve dans Écoloscope, notre rendez-vous mensuel sur l'environnement et l'écologie, Émilie Petit et Nicolas Battista, qui sont Émilie est journaliste et autrice de Militants écologistes sous haute surveillance quand l'activisme climatique est mis en péril, édition du Nid de Pied, pardon, paru l'année dernière. Et Nicolas Battista est militant au sein de la Legal Team de Rouen et chercheur indépendant sur la répression policière. Bah tiens, par exemple, cas pratique de ce qu'on fait de vos abonnements ou de vos dons, eh bien nous, et c'est bien normal, nous offrons à Nicolas Battista le train pour venir au studio de Paris, puisqu'il est à Rouen. Voilà, ça nous permet entre autres choses de payer le transport des invités. Voilà, est-ce que vous avez des questions, chers amis, des petites choses où je vais me soigner. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc hier, il n'y a pas eu de matinale parce que j'étais vraiment j'étais au fond du lit, et puis je me suis dit lundi de Pâques, voilà. Comment ça se passe les finances depuis le retour des abonnements? Est-ce qu'il y a eu du changement, nous demande Trognon. Alors, bah non, il n'y a pas de raison qu'il se paye lui-même son transport. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça, Jouma? Alors Trognon, en fait, pour l'instant, on est à somme nulle. C'est-à-dire que il y a un certain nombre d'anciens donateurs qui sont devenus des abonnés. Donc pour l'instant, ça ne fait pas rentrer un peu plus d'argent. Voilà. Mais on a bon espoir que ça change un petit peu. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment chouette parce que l'abonnement, pour moi, c'est une façon de payer un travail. Là où le don, c'est une façon plus de souligner un état d'esprit, quoi. Voilà, c'est pas exactement pareil, quoi. Donc les deux sont chouettes. À titre personnel, c'est plus simple pour moi de vous demander de vous abonner plutôt que de tendre la main pour vous demander de faire un don. Voilà, parce que l'abonnement, bah, en gros, c'est sanctionner, au sens propre du terme, un travail qui est fait par l'équipe, par Rial, par Nayan, par Glaudioman, par Théophile, par Roland, par toute l'équipe aussi de dev, Hans, Alexis, le graphiste. Alors, il commence à y avoir du monde, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, voilà, je vous dis à très bientôt. On prépare de belles émissions, notamment on va faire des jeux en direct. Vous allez voir, ce sera assez rigolo. Je vous propose de vous retrouver à minima lundi prochain. Je pense qu'on va aussi essayer de suivre les débats autour de la loi Yadan. Dont vous savez que nous avons déjà parlé en la personne d'Agnès Levallois. Voilà, merci beaucoup à vous tous, c'était un plaisir, je vous souhaite une bonne journée, merci encore.
Les amis, nous sommes sur Hopost.fr. abonnez-vous les amis, c'est David Dufresne, abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous, c'est Hopost.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Abonnez-vous à Hopost.
J'encourage, faites un don à Hopost. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous au poste.
Et faites des dons à Hopost. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Hopost. Il faut donner de l'argent pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous au poste.fr, Hopost.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Hopost.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Hopost et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Hopost.fr, y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient Hopost, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Hopost, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, Hopost.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.